Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des lieux qui sont des havres de paix. Le lieu où je me trouve aujourd'hui en est un. Situé à moins d'une heure de Toulouse, l'association Domino est un lieu d'accueil ouvert à tous pour des personnes traversant une période de fragilité ou des personnes porteuses d'un handicap. Un lieu extraordinaire qui, par la médiation de l'art et de la nature, aide à reprendre pied et plus encore à découvrir la merveille que chacun est. Voilà, cette émission Vivante Église ce matin, l'association Domino auprès des personnes atteintes de maladies psychiatriques, mais pas que, on verra. Et autour du plateau, alors on est in situ dans un des salons, à cause de la chaleur dès cette matinée, dans un des salons de cette association. Vous allez nous décrire le lieu. En tout cas, on est avec Marie-Claire Grasset, vous êtes présidente de cette association. Bonjour.
Bonjour.
Yves Moidon, vous êtes jardinier paysagiste et vous êtes aussi membre de cette association. Bonjour.
Bonjour.
Et Isabelle Dussault, vous êtes bénévole au sein de l'association Domino. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, bienvenue à vous trois. Peut-être pouvez-vous commencer par nous dire où on est, Marie-Claire Grasset. On n'est pas très loin de Toulouse, à moins d'une heure de Toulouse.
Oui, je dirais qu'on est même maintenant, avec le nouvel échangeur qui arrive au pied de la maison, à peine une demi-heure de Toulouse. Hein, donc un lieu facilement accessible et qui nous dépayse hein, dès que nous arrivons. C'est un très beau lieu. C'est une ancienne propriété agricole de 5 hectares avec un très beau bâtiment. Nous avons eu le coup de foudre quand nous avons vu ce lieu et nous y sommes installés depuis 3 ans. Nous venons de fêter et le 19 mai de manière un peu officielle et lors de notre assemblée générale samedi dernier nos 3 ans de présence dans ce lieu. Alors il y a d'un côté le parc, je ne sais pas si les auditeurs entendent les petits oiseaux.
On espère, en tout cas on s'arrangera au moins pour tendre le micro à la fin de l'émission.
Voilà, qui est juste à côté de nous, un très beau parc avec des arbres qui pour certains ont plus de 150 ans. Dont des cèdres. Et puis de l'autre côté, il y a une grande cour et des grandes prairies avec des moutons et puis voilà, des poules. C'est une ferme, quoi.
Plein d'autres choses à découvrir. En tout cas, c'est un très beau lieu et c'est un lieu très paisible, ne serait-ce que quand on vient de Toulouse, on y sent beaucoup de paix. Alors, si vous deviez commencer par présenter cette association Domino à tous ceux qui en Midi-Pyrénées et au-delà nous écoutent et qui ne la connaissent pas, comment vous résumeriez ce qui se vit ici ?
Alors, je dirais que l'association Domino, c'est un lieu où l'on vit, où l'on est et où l'on tisse des relations, se rencontre. Alors, pour nous, ça passe par des choses très simples, très concrètes. Ça va du jardin, du potager, de nourrir les animaux. Ça, c'est ce qui se passe ici. Ça se passe aussi à travers des ateliers artistiques. Nous avons des ateliers de théâtre. On a une troupe qui va bientôt se produire, puisqu'on vient de monter un spectacle, Chant de Claire. Nous avons des ateliers musique, de peinture. Tout ce qui va permettre à chacun de se poser, d'être là et de pouvoir dire qui il est, ce qu'il vit, ce qu'il traverse.
À chacun, pour chacun, mais particulièrement pour des personnes donc, qui traversent des périodes un peu difficiles ou qui ont qui sont porteuses de handicap. J'ai toujours du mal à savoir ce qu'il faut dire pour être délicat, mais
c'est toujours compliqué. Donc moi, je dirais que c'est pour tout un chacun. Et effectivement, les périodes de fragilité de la vie, et il y en a de nombreuses, ça peut être le chômage, ça peut être l'immigration, ça peut être un divorce, ça peut être beaucoup de choses. La vie ne se manque pas de nous fragiliser, de nous rendre peut-être un peu plus vulnérables. Et cette vulnérabilité n'est pas toujours facile à vivre dans notre société où il faut toujours être performant, compétent, au top. Donc je dirais que c'est un lieu où on peut laisser voir sa vulnérabilité et être avec d'autres.
Est-ce que vous voulez compléter cette courte présentation, Yves Moidon, avant qu'on avance, enfin on revienne un petit peu sur l'histoire et la genèse de cette aventure ?
J'aime bien moi le terme de vulnérabilité, souvent parce que c'est dans cette vulnérabilité que se cache la petite porte, la marche que souvent l'humanité, que chacun a posé, aller un peu plus loin pour construire sa vie. Voilà, et je trouve souvent merveilleux, au contraire, de passer de quelque chose de difficile à quelque chose qui va nous amener à être plus.
Alors, si on doit refaire l'histoire de ce lieu, parce que vous n'avez pas toujours été ici, et puis cette aventure est née d'une certaine manière dans votre cœur, à vous, ouais. Marie-Claire Grasset, et puis fort d'une expérience professionnelle particulière, dites-nous comment ça a débuté.
Bah, je dirais que, comme beaucoup de projets, c'est une longue genèse, hein, mais je pense que l'élément déclencheur a été l'expérience que j'ai vécue quand j'étais encore étudiante. Je travaillais à l'hôpital psychiatrique de Bordeaux et je me suis dit que c'était pas possible. Est né en mon cœur le désir de proposer autre chose que un lieu de soins. Je travaillais dans un service qui accueillait des personnes chroniques, comme on disait à l'époque, qui restaient là depuis très longtemps, où c'était pas beau, hein, les bâtiments n'étaient pas beaux, et il n'y avait vraiment pas grand-chose qui reliait ces personnes à la vie. Se mettre à table peut-être des fois une demi-heure avant et attendre le repas, ce que je trouvais pour ma part un peu court. Et puis avec une équipe soignante en grande souffrance, donc je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut faire autre chose. Je ne savais bien sûr pas quoi, mais c'est parti de ce désir que la maladie ne nous coupe pas de la vie, que c'est pas parce qu'on est malade, et même une maladie psychique fait qu'il y a encore en nous des choses qui sont... Il y a un désir qui est là, il faut des fois aller le chercher, mais tout n'est pas malade en nous, donc aucune personne ne peut se résumer à sa pathologie ou à sa maladie. Donc c'est parti de ce désir-là, de ce souhait, et en fait, ce qui m'a mis sur le chemin, c'est que j'ai rencontré des artistes, hein, entre autres une troupe de théâtre qui avait une vision de la personne, de l'art, qui m'a permis de faire des liens avec ce qui m'a paru pouvoir être un souffle d'oxygène pour les gens en souffrance psychique.
C'est-à-dire ?
Eh bien, je trouve, ayant moi-même suivi un stage de théâtre, ce que j'ai découvert dans ce stage, c'est que le théâtre nous appelait à vivre dans l'ici et le maintenant, sur le plateau, à lâcher tout, et à oser prendre un risque. Hein, et que dans ces instants-là, il y a autre chose de nous qui apparaît. Et au fond, je me suis dit que c'était ça qui était important quand on traverse une maladie ou une difficulté, c'est retrouver le souffle, ce lieu en nous où nous sommes créateurs quoi qu'il arrive.
Donc de l'intuition ou de ce désir que vous aviez dans le cœur à aujourd'hui, quelles ont été les grandes étapes ?
Alors moi-même, je me suis formée à ce travail d'expression théâtrale. J'ai travaillé sur beaucoup d'autres projets culturels et artistiques qui m'ont donné une expérience humaine, parce que je crois que c'est ça qui est premier. Donc j'ai travaillé dans un hôpital auprès de personnes âgées, créé un studio radio. J'ai travaillé avec des Amérindiens au Québec dans une réserve. Donc ça a été très riche au niveau de la rencontre interculturelle, et puis d'une autre manière d'aborder aussi la vulnérabilité. Hein. Ce sont des sociétés qui ont une toute autre approche, par exemple, de la vieillesse que nos sociétés. Hein. Donc tout ça a été un terreau. Et puis, en 2001, nous avons, je dis nous parce que bien sûr que ce n'est pas un projet que l'on mène seul, nous avons créé l'association Domino, qui a été fondée pour créer un lieu d'accueil pour des personnes qui ont besoin du havre de paix dont vous avez si bien parlé en introduisant cette émission.
Et donc, sur votre route, vous avez croisé Yves Moidon. Alors Yves, vous allez nous dire, quand est-ce que vous avez rencontré Marie-Claire Grasset et pourquoi vous êtes monté dans la barque ?
Nous avons commencé à travailler ensemble. Alors nous nous connaissons depuis bientôt 35 ans, mais nous avons commencé à travailler ensemble en 97, donc... il y a 20 ans. J'étais paysagiste dans un domaine où Marie-Claire travaillait. Et elle avait commencé des séjours de rupture avec une autre amie qui était kiné. Et quand elle n'était pas avec les personnes, elle me les envoyait sur le domaine. Et nous avons, à partir de ce moment-là, commencé à méditer le lien qu'il peut y avoir entre accueil de la personne, de la fragilité, travail artistique et lien avec la nature. Voilà, où le fait de reprendre des choses, un tempo de vie très simple en relation avec la nature, permet aussi de faire tout un travail pour se poser intérieurement et pour aller plus loin dans ce travail de construction ou de reconstruction.
Alors, peut-être avant qu'on fasse une première pause musicale, est-ce que vous pouvez nous dire depuis, je ne sais pas, combien de personnes passent ici ? Alors, il ne s'agit pas forcément toujours de faire du chiffre, mais depuis que vous êtes créé, et puis comment ça se vit à l'année ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici en résidence ? Ou est-ce que les gens ne viennent que pour la journée ?
Alors bon, on vient d'avoir notre assemblée générale, donc j'ai encore les chiffres du nombre d'adhérents. Notre association comporte à peu près 220 personnes. Et sinon, il y a différentes portes pour participer aux activités, pour nous rejoindre. En tout cas, celle qui est la plus régulière, c'est chaque vendredi. Nous proposons des journées accueil autour du jardin, ici. Ça peut être aussi la cuisine. Ce sont des journées qui varient beaucoup selon les saisons et puis selon les personnes qui sont là, ce qu'elles peuvent faire. Notre démarche étant vraiment de partir à chaque fois de la personne. Sinon, nos ateliers sont souvent le week-end parce que ce sont souvent des périodes... des moments de solitude pour beaucoup. Donc le samedi, nous animons un atelier théâtre pour une autre association à Toulouse, Bipôle. Le dimanche, un dimanche par mois, nous avons la troupe de théâtre. Et puis sinon, il y a beaucoup de stages, particulièrement l'été, où on peut être ici pour plusieurs périodes, enfin pour plusieurs jours, pardon, avec... possibilité d'accueil, mais particulièrement l'été, parce que la maison est très belle, mais il y a encore beaucoup de travaux à faire. Et au niveau de l'unité d'hébergement, elle n'est pas encore construite. Ça ne saurait tarder, mais ce n'est pas fait.
Et pour finir, avant qu'on fasse cette pause, promise, est-ce que vous auriez une histoire ou un exemple à citer qui vous frappe et qui dise d'une certaine manière un peu la fécondité de ce qui se vit ici? J'imagine qu'il y a plein de visages et d'histoires, mais...
Oui, il y a pas mal de visages, bien sûr. J'ai deux phrases qui me viennent, là, je vais prendre celles qui me viennent dans l'instant. C'est à la suite d'un atelier de théâtre, il y a un jeune qui Arnaud, qui faisait l'atelier, qui, à la fin, vient me voir et me dit « Quand on fait du théâtre, on touche à son âme. » Et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on cherche à vivre ici, hein, toucher à son âme. Ou l'autre jour, quand j'étais à l'atelier de théâtre aussi à Bipôle, hein, je parle beaucoup du théâtre parce que c'est ce que j'anime particulièrement, je présentais notre démarche et puis il y a quelqu'un qui m'a interrompu en disant « Non, mais c'est simple, hein, ici on apprend à être et puis c'est tout. Hein. » Voilà.
Voilà, donc un lieu pour apprendre à être et Dieu sait si dans notre société c'est bien utile. On va faire une première pause musicale et puis on vous retrouve tout de suite après pour continuer à parler de l'association Domino, de ce qui s'y vit. Et je ne vous oublie pas Isabelle, je vous donnerai la parole, c'est promis.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc sur l'association Domino, association donc auprès des personnes en situation de fragilité, pour faire court. Association donc qui est aux portes de Toulouse, d'une certaine manière. Lieu d'accueil et de vie, dans votre présentation, vous dites « Domino a comme objectif de révéler à toute personne qu'elle est créatrice, que sa vie peut être une œuvre d'art et qu'elle a un rôle unique à jouer dans la société. » Alors pour ça, vous avez deux grandes médiations, c'est le rapport à la nature et à l'art. Vous nous avez expliqué ça rapidement au début, quand vous avez fait un peu la genèse et l'histoire de cette aventure. On va parler un peu plus du rôle de la nature ici avec vous, Yves Moidon, et puis on donnera plus la parole à Isabelle Dussault. Alors je rappelle pendant autour du plateau qu'il y a Marie-Claire Grasset qui est présidente de cette association, Yves Moidon qui est jardinier paysagiste et Isabelle Dussault qui est bénévole. Oui, je suis un peu perturbé parce que je ne suis pas en studio. Donc ici il y a un beau domaine, vous avez un beau jardin, un peu de terre et particulièrement donc un potager où vous faites de la permaculture.
Tout à fait.
C'est votre domaine, alors décrivez-le nous d'abord, ce domaine un peu plus hors maison.
Tout à fait, nous avons la chance d'avoir trouvé... la Providence nous a bien aidés à trouver un domaine de 5 hectares, clos de haies bocagères. Donc nous avons 4 hectares de prairies, où nous avons quelques moutons pour le moment, et nous prenons le temps d'accueillir des animaux. Et nous avons mis l'axe sur le potager au départ, parce que nous avions un potager à tournefeuille pendant 5 ans. Et donc l'équipe des jardiniers était déjà en place... Dans l'association, ce qui fait qu'on a commencé...
Tournefeuille, c'était le lieu où se trouvait votre association avant,
c'était un jardin qu'on nous prêtait avant. Et donc là, on a migré sur ce potager. On a de la chance d'avoir, je dis souvent, on a la belle au bois dormant, il suffisait de la réveiller. Donc là, on a pris des modes douces, je vais dire. La permaculture est un travail du sol et de la nature qui est plus un travail... qui part de la contemplation, qui amène à un dominium plus ajusté, plus qu'à une domination. Hein, voilà. Donc ça permet.
Redis ce que c'est en quelques mots la permaculture.
Alors la permaculture, c'est on y met plein de choses aujourd'hui derrière. C'est une technique de gestion d'un ensemble, d'un écosystème, où on inclut l'humain dans cet écosystème. Hein. Ici, je n'applique pas les méthodes plénières de la permaculture, mais j'essaye de faire que, petit à petit, de découvrir ce que peut être cette harmonie entre l'écosystème, qu'est-ce qu'il peut donner avec la population qui y vit. Hein, donc nous avons fait le pari de prendre ce domaine et de prendre un potager avec les énergies de chacun. Donc j'y donne un peu la trame de ce travail, mais c'est le travail de chacun, soit pendant les vendredis, où nous sommes une dizaine, en gros, à venir travailler. Et une fois par mois, nous nous retrouvons pour les journées domaines où là, on peut être jusqu'à 30. C'est une journée un peu ouverte, porte ouverte, où chacun vient y donner un petit coup de main pour que la vie s'installe.
Qu'est-ce que vous cultivez alors ? Faites-nous rêver.
Oh, nous cultivons un peu tout. Carottes, pommes de terre, qui nous font bien rire parce qu'on en a en quantité. Artichauts, tomates, aubergines, courgettes, enfin tout ce qu'il faut pour la vie d'une maison. Parce qu'une des choses aussi, c'est que nous partageons le repas le midi. C'est une chose importante parce que beaucoup de personnes qui sont dans des difficultés personnelles sont aussi dans des minima sociaux. Et on est loin d'avoir les 5 fruits et légumes par jour quand on est aux minima sociaux. Donc le jardin permet d'avoir un bon repas avec des produits bio et un repas partagé ensemble. Donc retrouver la convivialité. C'est un peu la boucle, comment je vais de la graine à la table, voilà, qui est, je pense, la base de la culture, d'une vie culturelle commune.
Alors, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais on va donner un peu la parole à Isabelle. Isabelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivée ici et puis peut-être ce que vous y faites ?
En fait, je suis arrivée ici, c'est une connaissance qui m'a parlé de l'association Domino. j'avais du temps pour moi, puisque j'étais en rupture de contrat. Donc j'ai décidé de venir proposer mon aide. Un peu de temps, quoi. Et il s'avère que, en plus de proposer mon temps en tant que bénévole, ça m'a beaucoup aidé, puisque la rupture professionnelle que j'ai eue, là, a été très difficile. Donc je me suis rendu compte que passer beaucoup de temps au potager était quelque chose d'extraordinaire.
Oui, Marie-Claire Grasset disait que ça vous a évité de péter les plombs.
Enfin, oui,
je pense
tout
que
à fait.
Beaucoup
oui.
de gens qui traversent des périodes professionnelles peuvent comprendre. Hein, c'est...
Non, je pense qu'au départ, j'arrivais en tant que bénévole en disant « Bon, voilà, j'ai du temps à proposer. » Et au fil du temps, je me suis rendu compte que si je n'étais pas venue ici, j'aurais vraiment pété les plombs, oui, c'est sûr.
Alors, donc vous venez plusieurs fois par semaine ?
Oui.
Et vous êtes au potager, donc avec Yves
La plupart du temps,
plupart
oui.
Du temps.
S'il a besoin d'autre chose...
Ça va, il n'est pas trop dur avec vous ?
Ça dépend des jours. Hein. Non, c'est intéressant de travailler avec la nature, surtout quand on a nerveusement, on se rend compte qu'on est fragile. Je pense que passer par la nature, et par ce qui se passe ici, c'est très intéressant.
Alors justement, venons-y, il y a plusieurs points que vous vouliez souligner sur ce sujet de la nature. Yves Moidonde, ça ne vous empêche pas d'intervenir, Isabelle, vous faites-nous signe. C'est l'importance du réel. Alors ça devient parfois un peu tarte à la crème de dire ça, mais quoique, on entend dire, enfin je sais que moi en tout cas, dans l'émission Vivante Église, on nous parle souvent du transhumanisme. Il n'y a presque pas un mois sans que j'ai une proposition d'une émission sur le transhumanisme, la révolution numérique, etc. Et à contrario, il y en a qui font de la résistance en disant que l'urgence, c'est d'aller planter des artichauts et des tomates. Pourquoi ?
Je ne me positionnerai pas sur le transhumanisme, je connais peu le sujet.
C'est pas là-dessus que vous interrogez.
Je suis plus. Non, moi, je sais que.
L'importance du réel, ça veut dire
l'importance
quoi.
Du réel, déjà pour moi. Qu'est-ce qui fait que je découvre l'altérité ? Moi, c'est une de mes grandes questions aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que. On parle beaucoup de relations, de communion, de toutes ces choses-là, mais comment on rentre dans la réalité de ces concepts, enfin de ces choses, et comment on réapprend petit à petit, on apprend, voire on réapprend petit à petit que mon tempo de vie, c'est le mien. La plante, elle a un autre tempo de vie. L'animal a un autre tempo de vie. La personne qui est à côté de moi a un autre tempo de vie. Et c'est souvent ces choses-là qui font que on croit que nous sommes d'accord sur plein de choses, mais au final, dans notre quotidien, la tension vient de la non-reconnaissance de cette différenciation. De cette différence. Là, on vient de passer la Pentecôte et la Pentecôte diversifie. Et pour moi, c'est ce grand moment, ce grand mouvement de la nature, c'est une différenciation. Quand on lit l'évolution d'un écosystème, un écosystème va vers une spécialisation, une spécificité de chacun des êtres vivants. Et comment petit à petit, j'apprends à reconnaître, contempler la différence de l'autre parce que ça m'amène à accepter ma propre différence. Et que c'est dans cette différence-là que je peux ajuster mon don, hein, ajuster ce qui je suis.
Donc la première vertu de ce rapport à la nature, ce serait donc d'apprendre ce rapport à l'altérité.
Il me semble en tous les cas que c'est ce chemin-là que en tous les cas pour moi, je pense que pour ceux qui viennent aux ateliers, on se rend compte que c'est oui d'apprendre que il y a plein de rythmes différents, il y a plein de le temps est différent pour chacun, l'espace est différent pour chacun, et je pense que quand on parle aujourd'hui de la Laudato Si, de la fraternisation, je pense qu'il n'y a pas de fraternisation sans reconnaissance de la différence. La fraternisation, c'est notre capacité à ouvrir notre esprit à une différence incroyable. Et souvent, je dis, je suis plus une tomate, un plant de tomate est plus proche de moi que mon voisin. parce que je vais plus rentrer plus facilement en relation, au fond, s'il a une réaction un peu différente. Voilà, mais c'est, comment...
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Comment on rentre en relation avec un plant de tomate ?
Ben, c'est-à-dire, c'est
vous
simple.
Vous m'inquiétez, là.
Ben, oui, c'est du vivant. Si je ne prends pas soin, si je ne le respecte pas dans ses rythmes, eh ben, il mourra. Voilà, donc si je l'arrose pas, si je le, ben, il ne vivra pas ou il ne donnera pas de tomates, ce pourquoi il est fait.
Est-ce que Isabelle, par ricochet, ça aide à prendre soin de soi, en fait, de tout simplement de prendre soin de la nature, des tomates et autres?
Ah ben c'est sûr que c'est une autre vision des choses. On n'a pas l'habitude hein, d'être en rapport avec la nature comme ça. Donc on a envie de prendre plus de temps pour faire les choses. On a envie d'être, de se mettre un petit peu à l'écart du stress que l'on connaît à l'extérieur.
Oui, pardon, excusez-moi, je fais signe à Yves Moidon si vous pouvez récupérer le micro, comme ça tous les auditeurs sont au courant des coulisses de l'émission. Y a un autre point sur lequel vous vouliez insister, c'est que ce rapport à la nature, alors il y aurait plein de choses à dire évidemment, hein, mais c'est quelque chose qui vous paraît important, ça permet de passer, pour faire caricatural, hein, du faire à l'être, de changer de paradigme, vous me disiez. Alors ça aussi, vous avez cité Laudato Si, qui est donc cette encyclique du pape François sur l'écologie. Et il en parle, changer de paradigme.
Ben oui, je pense que c'est tu disais tout à l'heure, Isabelle, que on prend le temps. Et pour moi, c'est passer d'un mode de production dans lequel, moi, dans toutes mes études, dans tout ça, j'ai été interpellé à être un agent de production, hein, de nettoiement, de faire propre, de tout ça. À être. Et je vois que la chaise sous le poirier, aujourd'hui, elle a tout son lieu d'être. Parce qu'elle permet de, justement, ne accepter petit à petit ce silence. La suractivité, ça sert, c'est parce que nous avons peur de notre propre silence, en faisant très court. La peur du vide. Et le jardin permet, parce qu'il y a une chaise sous le poirier, et il y a pas mal de monde la prend pour, et au fur et à mesure, pouvoir s'arrêter, hein, prendre le temps de regarder, permet justement de se poser intérieurement et de ne plus être dans une question de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois plaire, Non, de prendre ce temps de se poser. On fait petit à petit, après le repas du midi, le vendredi, ce qu'on appelle les siestes contemplatives. C'est-à-dire qu'on propose à chacun de prendre un temps avec un papier, un crayon, d'aller dans le parc et soit de se reposer, soit de dormir, parce qu'ils ont besoin de dormir. Nous avons besoin de faire la sieste. Soit de prendre le temps de dessiner ce que je vois, c'est-à-dire une réalité. Et cette réalité, comment petit à petit, hein, c'est un peintre qui s'appelle Alexandre Rolane qui parle de ça, il dit pour rentrer en relation, pour pouvoir dire l'autre, hein, dans la peinture, pour lui, il y a quatre étapes. La première, c'est l'autre est hors de moi, je le dessine de l'extérieur. Puis je vais passer par une étape qui s'appelle la fusion, c'est-à-dire je vais dans l'arbre. Puis après, je sens qu'il y a un troisième chemin qui est l'arbre devient dans moi, hein, c'est l'intégration. Puis, quatrième étape, l'arbre reprend sa place, je reprends sa place. Et c'est ce chemin d'altérité, hein, dont nous parle par exemple Éloi Leclerc dans son commentaire du Cantique des créatures, qui est passionnant.
Éloi Leclerc, franciscain.
Franciscain.
Voilà, auteur de.
Voilà, de pas mal
de
livres.
Sagesse d'un pauvre.
Voilà. Et il a un livre passionnant sur le commentaire du Cantique des créatures, où la fraternisation, c'est pas cuicui les petits oiseaux, c'est comment je vais intégrer, quand il parle de l'eau, l'eau boueuse, l'eau ravageuse, l'eau, toutes ces formes d'eau et qui vont aller vers jusqu'à la pacification et donc à une vraie fraternisation. Donc c'est pas un chemin, c'est pas un chemin simple que la fraternisation, mais c'est un chemin qui nous fait passer de l'action à la contemplation.
Voilà, on dirait presque du Saint François d'Assise. Hein. En tout cas, c'est ce à quoi nous invite le pape François. J'ai souvenir d'une émission sur l'encyclique Laudato Si, où certains théologiens disaient que c'était aussi, il y avait aussi des avancées théologiques dans cette encyclique. Et voilà. Mais c'est pas l'objet de cette émission. On va faire une deuxième pause et puis on vous retrouve après pour parler cette fois art. Thank you.
Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin, donc, en direct donc, de l'association Domino, à quelques kilomètres de Toulouse, pour découvrir ce lieu et ce qui s'y vit. L'association Domino, donc, a été créée. Quand est-ce qu'elle a été créée déjà, Marie-Claire Grasset ?
Elle a été créée en 2001.
2001, vous êtes ici depuis 2014, c'est
exactement,
ça ?
Exactement, voilà. C'est tout à fait ça.
Et donc, c'est un lieu, pour faire court, d'accueil et de vie pour des personnes qui traversent des périodes difficiles ou des personnes porteuses de handicap, mais tout le monde peut venir pour redécouvrir, pour reprendre pied et puis pour plus que ça, redécouvrir. Je recite le titre, enfin l'introduction que vous faites quand vous présentez l'association Domino, de redécouvrir que toute vie peut être une œuvre d'art et que chacun a un rôle unique à jouer dans la société. Et on va essayer de le comprendre avec vous. Donc, l'autre pied sur lequel vous marchez, c'est donc les activités artistiques de ce lieu. Donc, il y en a beaucoup. Quand on va sur votre site, on trouve plein de choses. Le théâtre, la peinture, des ateliers d'écriture. Comment vous résumeriez déjà, présentez-nous les activités, puis après, peut-être le sens que ça a, Marie-Claire Grasset.
Alors, je vais faire le lien avec ce que nous disions tout à l'heure quand on parlait de Laudate Si, hein. Il y a une phrase dans cette encyclique que j'aime beaucoup, hein, quand le pape dit « Je m'exprime en exprimant le monde, j'explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du monde.
Hein, » Redites-la nous.
« Je m'exprime en exprimant le monde, j'explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du monde. » Je dirais que toute notre démarche artistique, elle est là. Hein. Comment je reçois le monde dans lequel je vis. Alors, bien sûr, il est tellement large, tellement grand, que ça passe par des choses plus simples. Hein. Ça peut passer par le personnage que je dois jouer au théâtre, c'est-à-dire explorer un personnage. Qu'est-ce que ce personnage à me dire de mes propres combats, de toutes les émotions que je traverse, de la vie. En ce moment, nous sommes en train de monter Chanteclair. À chaque fois que nous montons une pièce de théâtre, c'est bien sûr l'occasion de plonger dans ce qu'a voulu dire un auteur, mais aussi dans sa vision du monde. Et ce coq Chanteclair, eh ben, on apprend à le connaître.
Hein, Chanteclair, c'est donc une pièce d'Edmond Rostand.
Oui, c'est ce coq qui...
On va dire à la fin, mais que vous jouez justement dimanche prochain.
Voilà, on va jouer dimanche prochain. Mais ce qui est intéressant, c'est tout ce que vivent ces personnages. Les poules qui sont complètement versatiles et qui vont toujours du côté de celui qui parle le dernier. Chanteclair qui s'ancre dans sa nécessité intérieure, comme dirait Kandinsky. Donc, ce que je veux dire à travers ça, c'est que dans notre démarche artistique, c'est toujours partir du réel. Alors, le réel peut être un personnage. Et puis, ça peut être aussi à travers la nature, qui est intarissable. Je trouve que c'est une source qu'on n'a jamais fini d'explorer. Donc, soit la nature en direct aussi, soit en partant de personnes qui ont su contempler la nature. Parfois, on part d'auteurs dans nos ateliers d'écriture, de petites phrases. Parfois, on part de certaines lettres. Peu importe, le point de départ, c'est comment ce point de départ, chacun va le recevoir de manière très personnelle, très intime. Nous sommes chacun... unique, et dans cette réception du réel, quelque chose de ma sacralité va s'éveiller, pour reprendre la phrase là du pape, et c'est retrouver cette sacralité en moi et aussi en l'autre, parce que les ateliers sont souvent des ateliers
de groupe.
Donc ce que je vis moi, je vais découvrir comment l'autre le vit. Moi, à chaque fois, je suis impressionnée. Des fois, on travaille sur une chaise. Le thème de l'atelier en peinture, ça peut être la chaise, ça peut être la pomme. Mais au final, on est dans des mondes très différents. Donc c'est contempler tout ça et le chemin qui est fait à chacun et comment il va être donné à d'autres.
Alors, c'est ça, découvrir que sa vie est une œuvre d'art. Comment vous expliqueriez ça ? Parce que j'imagine que parfois, quand les personnes arrivent ici, qu'elles sont fatigués. Vous commencez pas par ça, par leur dire ça, si
Oh, je sais pas, c'est différent à chaque fois. Je ne sais pas ce qu'on dit à chaque personne qui vient, mais quand on dit faire de sa vie une œuvre d'art, c'est permettre à chacun de renouer avec la beauté qui est en lui. Hein. J'aime bien cette phrase hein, qui dit ben, parce que quelqu'un qui fait du beau devient plus beau. Et plus je suis en relation avec ce qui en moi chante la gloire, hein, magnifie l'homme, magnifie la nature, enfin poétise, chacun met les mots qu'il veut derrière, plus je goûte à ça, plus je ne vais pas me satisfaire d'une vie insipide et médiocre. Hein. Ça peut être une vie simple, hein, mais plus je vais avoir le désir que ma vie ait du sens pour moi et pour d'autres. Et à travers ça, découvrir que j'ai une mission unique. Je dirais que c'est tout le sens de nos ateliers. Hein. C'est à la fois découvrir ce que je porte personnellement et ce que je porte, comment je peux le donner et le redonner aux autres, à la société, au corps commun dans lequel je vis, qui en a besoin, parce que je suis le seul à pouvoir l'apporter et le donner.
Alors, est-ce que vous pourriez donner des exemples, par exemple ? Donc, des personnes arrivent ici dans des moments parfois compliqués. Dans quelles découvrent ce que vous venez de décrire ? Mais après, il faut repartir. Et puis...
Peut-être que, Isabelle, tu pourrais dire, parce que je pense que t'as fait un certain parcours ici.
Isabelle Dussault.
Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport au parcours que j'ai fait ici, c'est déjà, de par mon métier, je suis dans la recherche de la relation humaine.
Parce que votre métier, c'est ?
Auxiliaire de vie.
D'accord.
Donc, je trouve que beaucoup d'endroits sont déshumanisés pour moi. Donc ce qui est intéressant ici, c'est déjà de se retrouver soi-même, d'être dans l'ici et le maintenant, je crois que c'est important aussi. Et c'est vrai qu'on a besoin d'endroits comme celui-ci pour se dire, on a le... Bon, moi, je me répète, hein, je venais comme bénévole et je croyais pas que j'étais fragile. Et en fait, je me suis rendu compte en venant ici que si j'étais pas passé par Domino, par le domaine, j'aurais pété sérieusement les plombs.
Mais est-ce que vous avez découvert que votre vie était une œuvre d'art ? Est-ce que vous avez compris un peu le
moi,
rôle ?
Moi, de par mon métier, je sais qu'on peut faire une œuvre d'art de ce qu'on a à l'intérieur de soi.
C'est-à-dire ?
Moi, dans mon métier, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai vécu des choses extraordinaires. Qui pour moi sont humainement toujours extraordinaires. Mais je pense que venir ici m'a aidé à faire ressortir des choses que j'avais décidé d'enfouir. Et ça m'a permis de prendre de la distance par rapport aux soucis que j'avais. Donc voilà. Donc.
Est-ce que vous auriez d'autres exemples par Claire Grasset qui compléterait ce que vient de dire Isabelle, qui décrit donc des personnes qui ont pris conscience de ce que vous venez de décrire, qu'on peut faire de sa vie une œuvre d'art, et puis surtout du rôle qu'elles avaient à jouer dans la société, et puis qui, une fois reparties chez elles, ont réussi à continuer à...
Oui, je pense que Isabelle dit ce qu'elle a découvert ici au niveau d'une manière d'être dans son travail. Pour d'autres, ça va être de pouvoir trouver la capacité à être seul. Hein, si je reprends ce que dit Winnicott, qui est un psychiatre et un psychanalyste, parce qu'elles n'assumaient pas du tout leur solitude. Donc, venant ici, petit à petit, ça va être de pouvoir louer un logement et habiter ce lieu, c'est-à-dire le tenir, avoir une vie sociale. Ça, pour d'autres, ça va être de s'inscrire à d'autres ateliers artistiques, parce que au fond, hein, ce qui est important, c'est qu'on ne devienne pas le tout de la personne. Donc ici, c'est un lieu de passage, et puis après, chacun construit sa vie. Donc ça peut être ça, construire une famille. Hein, je pense à une personne qu'on a accueillie, qui a fait les ateliers jardin et qui vraiment a vécu des choses très belles et très fortes, qui s'est reconstruite et qui aujourd'hui est en train de fonder une famille et va bientôt avoir un enfant à l'automne. Donc voilà, c'est très différent pour chacun. Mais en tout cas, je pense que notre action, elle est plus une action de qualité. Hein, c'est-à-dire que les gens touchent à une qualité de vie, à une qualité d'être. Et on voit après que ça change leur vie. Hein. Mais c'est une ligne de fond, je dirais.
Moi, donc, vous vouliez ajouter quelque chose.
Pour certains, c'est la question aujourd'hui toujours dans le changement de paradigme. On veut un résultat, c'est-à-dire quelque part une réinsertion. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens que nous accueillons vont se réinsérer. Par contre, je pense à une l'autre jour qui m'a dit « ça y est, je commence à voir, à trouver ma mission ». C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux amener à la société ? Hein, sa question, au fond, c'est d'être une animatrice.
Mais sans dire son prénom et son nom, dans quelle situation elle est ?
Elle a eu un parcours psychiatrique assez important. Elle a intégré le fait qu'elle a cette fragilité, elle l'aura toute sa vie, elle en est bien consciente, c'est un travail. Elle construit son couple et sa famille avec aujourd'hui. Et c'était très beau la fois dernière où elle disait « mais au fond, moi, dans mon village, je me rends compte que par la relation avec monsieur un tel, avec monsieur un tel, etc., je découvre le fait que ma mission est d'être animatrice ». Voilà. Et pour moi, c'est comment petit à petit permettre à chacun d'être missionné. Isabelle, tu n'as pas de question sur ta mission. Ta mission, tu me disais l'autre jour, ben voilà, je suis heureuse d'être avec les personnes âgées à travailler. Donc, il n'y a pas de question de mission, mais c'est comment cette mission, elle peut s'enraciner dans une vie. Et qu'en dehors de cette mission aussi, il y a l'équilibre qui se fait pour toute une vie.
Pour finir, Marie-Claire Glacé, vous me disiez donc, en préparant l'émission que l'art a un autre rôle, c'est que ça permet de célébrer quelque chose ensemble, c'est-à-dire de faire communauté, comme on dit un petit peu dans le jargon.
Alors, oui. Expliquez-nous. Oui, c'est une dimension qu'on n'a peut-être pas beaucoup développée dans cette émission, mais il y a cette dimension personnelle à travers les arts, mais cette dimension de vivre des aventures de création ensemble, c'est un point capital aussi de notre travail, de notre action. Alors, ça passe à travers des spectacles, mais à travers des chantiers. Hein. C'est incroyable quand plusieurs personnes sont ordonnées ensemble à une même création, à un même travail, ce que ça produit. Et je trouve que ça donne des signes d'encouragement pour chacun, enfin, une expérience de dépassement. Hein. Je pense que dans tout ce qu'on fait, il y a comment vivre des expériences de dépassement.
Voilà, et ben, il y aurait plein d'autres choses à dire, évidemment. Enfin, me revient en tête, c'est pas pour faire savant, mais un livre de Régis Debray s'appelle Le Moment Fraternité. Donc, c'est un intellectuel français qui dit que, en tout cas, pour que dans une société, il y ait vraiment une fraternité vécue, c'est quand même une devise républicaine, il faut entre autres qu'il y ait des fêtes ensemble. Voilà, en tout cas, qu'on célèbre quelque chose ensemble. Pour finir, donc, ce spectacle, c'est dimanche prochain, Chante Claire, l'association Domino. Donc, c'est à la salle des fêtes de Roques-Serrières. Salle des fêtes de Roques-Serrières, donc 15h30. Chante Claire, pièce d'Edmond Rostand, donnée par l'association Domino. Une occasion de vous découvrir. Pièce qui sera donnée aussi à Toulouse en novembre prochain. Et puis, vous vouliez nous parler d'un stage peinture, pour finir ?
Oui, bon, c'est un rendez-vous de cet été pour tous ceux qui ont envie de découvrir justement comment ils sont créateurs. C'est un stage de 4 jours. On part de la contemplation de la nature. C'est du 13 au 16 juillet.
Du 13 au 16 juillet. Voilà. L'invitation est faite. Et puis, pour ceux qui voudraient plus d'informations, un site internet www.associationdomino.org www.associationdomino.org. Et si vous voulez un numéro de téléphone, eh ben vous appelez Radio Présence et on se fera un plaisir de vous donner le numéro de téléphone de l'association Domino. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ce matin pour cette émission Vivante Église. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.